J'aime beaucoup les paroles de ce chant. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. As-tu trouvé ta place dans la maison de Dieu? Dieu me fait grâce de circuler un peu dans les églises et je suis toujours frappé en partageant avec les gens de constater combien beaucoup de personnes peinent à trouver leur place dans la maison de Dieu. Et peut-être ici, peut-être que tu es là et que tu te dis « je n'ai encore pas trouvé la place dans la maison de Dieu ». C'est un thème tellement important, c'est une question tellement importante parce qu'il me semble que tant qu'on n'a pas trouvé notre place dans la maison de Dieu, on ne peut pas entrer pleinement dans notre appel. J'aimerais voir avec vous ce matin deux fils qui n'avaient pas trouvé leur place dans la maison de leur père. C'est l'histoire du fils prodigue. On trouve cette histoire dans l'évangile de Luc 15, à partir du verset 11. La parabole du fils prodigue, on la connaît bien. Et je prie ce matin que Dieu ouvre nos cœurs pour qu'on puisse saisir ce qu'il veut nous dire ce matin. Luc 15, à partir du verset 11. Est-ce que c'est gênant le souffle? Ou je prends un micro, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Parce que parfois je respire. Permettez-moi de respirer, je vais essayer de ne pas respirer trop fort. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Alors j'imagine la douleur du père quand son fils vient le voir pour lui dire, « Père, donne-moi la part de mon héritage, je veux m'en aller. » J'imagine la déchirure du cœur du père. Et certainement que le père a dû vouloir le retenir, certainement qu'il a dû discuter avec lui, essayer de trouver des arguments pour le faire rester. Mais l'amour véritable n'est pas un amour qui enferme. Donc le père partage son héritage et laisse aller son fils, certainement à contre-cœur. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. L'homme n'est pas fait pour vivre loin de son Créateur. Alors il peut un temps jouir des satisfactions de ce monde, jouir des distractions. Mais une fois que tous les avantages sont passés, une fois que les avantages de la jeunesse, les avantages matériels sont passés, une fois qu'on aura tout gaspillé, eh bien, il nous restera toujours ce besoin que seul Dieu peut combler. Alors, le fils prodigue a tout dépensé et il se retrouve dans le besoin. La fuite, frères et sœurs, de la maison de notre Père nous mènera toujours dans des chemins de misère. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Alors la famine se fait sentir, mais il ne revient pas vers son père. Il se tourne d'abord vers ses concitoyens. Et quelle est la réponse du concitoyen? Il l'envoie dans un champ pour garder les porcs. Savons que dans la culture de l'époque, les porcs étaient considérés comme des animaux impurs. Alors le voilà, notre jeune fils prodigue, qui ayant tout dépensé, qui cherche le secours quelque part, qui se retrouve dans un champ au milieu des porcs. Donc voilà que dans sa détresse, il se met à désirer ce que mangent les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, ou caroubes selon vos versions, que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Les caroubes, ce sont des racines que mangent les cochons. Et il se met à désirer ce que mangent les porcs. C'est vous dire dans quelles conditions il est tombé. Tant qu'on ne revient pas à Dieu, on ne fait que rendre notre condition encore plus misérable. Et je pense à tous ces charlatans de ce monde qui utilisent la misère humaine pour s'enrichir. Et alors que les gens cherchent des solutions, ils se tournent vers des personnes qui rendent leurs conditions encore plus misérables. Voilà ce que le monde a à offrir. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. » Étant entré en lui-même, donc il y a un temps d'introspection où il considère sa misère et il se souvient que finalement, chez son père, c'était pas si mal que ça. Ce n'est que dans la misère la plus extrême de sa vie que le fils prodigue se souvient de la façon dont son père traitait ses ouvriers. Après tout, ses ouvriers étaient bien traités, ils avaient de la nourriture. Moi, je me dis parfois que le fils prodigue aurait pu revenir plus tôt vers son père. Mais il faut souvent être tombé au plus bas et s'être débattu avec nos propres forces avant de comprendre que le secours vient de l'Éternel seul, avant de réaliser qu'on a juste besoin de revenir dans la maison du Père, dans la maison de son Créateur. Alors, ce temps d'introspection étant achevé, il se leva et il alla vers son Père. Mais avant, il imagine ce qu'il pourrait lui dire. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Alors il se lève et sur le chemin du retour, j'imagine toutes les pensées qui ont dû traverser son esprit. Est-ce que mon père va me recevoir après tout ce que j'ai fait? Est-ce qu'il va au moins me parler? Est-ce qu'il va accepter que je lui dise ces quelques paroles? Et ça fusait dans sa tête. Mais c'était ignorer que l'amour du père est un amour immense qui efface la dette du passé. L'amour du Père pardonne, quel que soit ce qu'on ait pu faire. Alors il se leva et il alla vers son Père, et quand il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ce passage me touche parce qu'on voit la position du Père qui scrutait l'horizon, peut-être tous les matins et peut-être plusieurs fois par jour dans l'attente du retour de son fils, le père qui attend désespérément que son fils revienne à la maison. Le père passait son temps à scruter l'horizon comme Dieu scrutait l'horizon de notre perdition avant qu'on revienne à lui. Et c'est ainsi comprimé, compressé, entouré par les bras de son père que le fils réalise cette confession. « Mon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et il s'apprête à continuer à dire ce qu'il avait prévu de dire, mais le Père ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase. Ça, c'est la grâce. La grâce de Dieu qui n'attend pas un certain nombre d'explications, de justifications. La grâce de Dieu qui accueille toutes nos misères, sans ressasser le passé. Ça, c'est le cœur du Père. Il n'a même pas le temps de finir ce qu'il avait prévu de dire, qu'il est accueilli par la grâce du Père qui efface sa condamnation. Le fils prodigue ignorait certainement que son retour répondait à une ardente attente du Père, à un désir profondément ancré dans le cœur du Père de voir revenir son enfant à la maison. Tant que tu es loin de Dieu, tant que tu te tiens loin du Père, il ne cessera d'attendre ton retour. Il ne cessera d'avoir le cœur déchiré pour toi. Alors il enverra peut-être des prophètes, il enverra peut-être des messagers, mais il n'ira jamais à l'encontre de ta liberté. Il n'ira jamais à l'encontre de ton libre arbitre, parce que l'amour véritable est un amour libre. L'amour véritable n'enferme pas l'autre dans ses désirs, mais considère l'autre. L'amour véritable est un amour pleinement consenti. Le Père est tellement touché par ce retour qu'il dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Il change ses habits de misère contre des habits dignes, des habits nouveaux. Et c'est un peu l'image de la nouvelle naissance. Quand nous revenons au cœur de Dieu, eh bien, il enlève nos habits souillés par le péché pour nous mettre cet habit resplendissant, cet habit de justice. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. C'est là qu'apparaît le troisième personnage clé de cette histoire. Après le fils prodigue, après le père, voici le fils aîné. Il travaillait dans les champs, il entend la musique, il entend les danses, et il se demande, mais que se passe-t-il ? Je ne savais pas qu'il y avait une fête aujourd'hui dans la maison du père. Alors il appelle ses serviteurs et il demande ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère. Et là, on se dit, mais what ? La scène, pour l'instant, est quand même assez extraordinaire et parfaite. Alors, quel est cet élément qui vient troubler les réjouissances ? Le frère entre dans une terrible colère. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père. « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. D'un côté, on se réjouit, on fait la fête, et de l'autre, le fils fait la tête. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors derrière cette apparence d'enfant parfait, d'enfant qui n'avait aucun souci, il y avait au fond du cœur du fils aîné de l'amertume et de la frustration. Il y avait aussi de la jalousie. Il pense en réalité que son frère est mieux traité que lui. Cette histoire, c'est ce qui se passe dans l'Église. Le fils prodigue, c'est le symptôme d'un cœur partagé. D'un cœur partagé entre d'un côté vouloir servir Dieu et de l'autre vouloir servir les idoles. Un cœur tiraillé entre Dieu et les idoles. Le fils prodigue vivait dans la maison, mais il était attiré par les choses du dehors. Notre père, je le rappelais dans un ancien message, notre père a un héritage pour chacun d'entre nous, une terre promise. Et pour nous empêcher de rentrer dans cette terre promise, le diable va mettre des idoles entre nous et Dieu pour nous empêcher de rentrer pleinement dans notre destinée. Et dans le secret de nos cœurs, parfois, nous nous courbons encore devant des idoles qui prennent la place de Dieu. Ça, c'est le fils prodigue, un cœur partagé. Le fils aîné, c'est le symptôme d'un cœur éteint. Le fils aîné vivait tous les jours au contact de son père, mais il avait une fausse image de son père. Ses propos révèlent qu'il avait de l'amertume en lui. Il avait de l'amertume envers son propre père. Il le voyait simplement comme un employeur qui l'exploitait. Le point commun entre le fils prodigue et le fils aîné, c'est que ni l'un ni l'autre ne connaît réellement le cœur du père. L'un est aveuglé par les attraits de ce monde. Il perçoit son père comme un obstacle à son bonheur. L'autre perçoit son père comme quelqu'un de dur, comme un patron dur et sans cœur. Quelle est l'image que tu as de ton Père céleste ? Je pose la question parce que parfois on peut avoir une image déformée de notre Père céleste pour plusieurs raisons. Peut-être parce que on a été influencé par la religion, toutes sortes de religions qui véhiculent une fausse image de Dieu, d'un Dieu lointain sur son piédestal, qui regarde d'en haut nos misères sans trop intervenir. Et on peut avoir cette pensée-là que Dieu ne se préoccupe pas de ma condition. On peut avoir une image déformée du Père, peut-être aussi à cause des croyances collectives. Vous connaissez cette expression ? Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour mériter ça ? Et ça, c'est des expressions de la vie courante, mais qui montre que derrière cela, il y a une fausse image du Père qui est juste là à regarder nos actes et à nous envoyer une tuile au moindre faux pas. n'est pas le cœur du Père. On peut avoir aussi une image déformée de Dieu, du Père céleste, peut-être parce qu'on a eu un Père terrestre absent ou abusif ou autoritaire. En tout cas, un Père qui n'a pas été à la hauteur de son devoir. Personnellement, j'ai vécu dans l'Église très longtemps sans réellement connaître le cœur du Père. J'étais amoureux de Jésus. Quand je me suis converti, j'étais attaché à Christ et je priais tous les jours. J'avais une relation avec Jésus, mais je m'étais arrêté à lui. Or, la Bible dit bien que Christ nous conduit au Père. Et comme j'avais un Père dur, eh bien, je préférais me tenir un peu à l'écart de mon Papa céleste, par crainte ou par peur, pour éviter les ennuis. Alors oui, j'étais converti, mais il y avait toujours ce petit enfant en moi qui n'avait pas été consolé. Les années passaient, mais il y avait toujours au fond de moi ce petit garçon qui pleurait, qui avait besoin d'être consolé par son Papa céleste. Ça, c'est la marque de ceux qui n'ont jamais été encouragés ou valorisés quand ils étaient petits. On avance dans la vie et on recherche l'amour des autres, l'approbation des autres, mais on ne le cherche pas au bon endroit parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse combler ce vide. Je fais une parenthèse, il y a deux semaines, j'étais à la prison d'Angers. Alors je vous rassure, j'y étais de mon plein gré. J'allais chanter quelques chants pour amener l'espoir auprès des détenus. Et je les voyais là, assis sur le banc. Et puis, j'ai eu un fardeau pour eux. J'ai vu, en fait, malgré leur carapace, vous savez, de grands gaillards solides, je voyais le cœur d'enfant qui était en chacun. Alors j'ai été amené à leur parler de l'amour du Père et de cette nécessité de revenir au cœur du Père. Parce que lui seul pouvait offrir une nouvelle vie. Lui seul pouvait les racheter, quels que soient leurs actes, quels que soient ce qu'ils aient pu faire. Lui seul allait pouvoir les accueillir sans juger, en effaçant leurs dettes, en leur donnant une nouvelle destinée. Et après, je discutais avec les détenus à la fin et tous m'ont avoué qu'ils avaient eu un père maltraitant, un père dur, un père abusif. Oh, ça n'excuse pas. En tout cas, on peut comprendre que quand on a eu un père un peu défaillant, les parcours dans la vie peuvent être difficiles. Pour revenir à mon témoignage, j'en étais resté à Jésus. Et quand j'ai réalisé que je n'avais pas compris une dimension de l'amour du Père, je suis allé voir Jésus et j'ai dit « Conduis-moi jusqu'au Père. Conduis-moi jusqu'à mon Papa. » Et il l'a fait. « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui nous révèle le Père et c'est le Père qui nous donne cette identité d'enfant, cette identité de fils et de fille de Dieu. Et quand je me suis retrouvé devant mon Papa céleste, il m'a dit « Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter mon amour. Je t'aime tel que tu es. Je t'aime parce que tu as de la valeur à mes yeux. Il n'y a rien que tu puisses faire qui n'enlève ou qui n'augmente l'amour que j'ai pour toi. » Et cette parole a été comme une bombe dans mon cœur qui a dynamité toutes les forteresses, tous les mensonges, tous nos faux-semblants. En fait, ces paroles ont changé ma vie. On peut savoir des choses, mais on peut les savoir de manière intellectuelle, mais quand on les réalise, quand on les reçoit au plus profond de notre cœur, les vies sont changées. Je ne sais pas qui disait ça, peut-être un navigateur qui a fait plusieurs fois le tour de la Terre et qui disait « La distance la plus grande au monde, c'est celle entre le cerveau et le cœur. » Tant qu'on n'a pas saisi notre position d'enfant de Dieu, on marche en boitant dans la vie comme des orphelins en quête d'un père, en quête de repères. Mais quand on a compris l'amour de Dieu pour nous, quand on a compris notre valeur, eh bien on peut marcher tout droit, pleinement dans notre destinée. Romains 8, verset 15, dit ceci. « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père, le mot Abba, en fait, c'est un mot en araméen qui signifie papa. C'est un des termes les plus familiers pour dire papa. On peut appeler Dieu notre papa. Alors, je ne sais pas, vous, si dans vos prières, vous l'appelez papa, mais moi, quand j'ai commencé à m'adresser à Dieu en lui disant papa, il y a quelque chose dans mon identité qui a commencé à changer. C'est important de nous approcher de Dieu en sachant qu'on est aimé de lui. Quand on comprend notre position d'enfant de Dieu, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus de compétition entre nous, plus de comparaison, on n'a plus de masque, en fait, on peut tomber les masques. Je peux être moi-même. Et les autres ne sont pas une menace pour moi, je ne suis pas une menace pour les autres, parce que je sais que je suis aimé de mon papa. J'ai enfin trouvé ma place. Alors je vais faire un appel ce matin. On va reprendre le chant qu'on a chanté au départ. Dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Et je vais faire un appel pour ceux qui n'ont encore pas compris ou ceux qui n'ont pas réalisé pleinement l'amour du Père pour eux. Je crois que ce matin, il y a quelque chose qui coule du cœur de Dieu. Il y a un esprit d'adoption ce matin, le Père qui voudrait que chaque enfant soit réconcilié avec lui. Et si nous sommes déjà réconciliés avec lui, il y a cet appel d'aller plus loin dans la compréhension de l'amour du Père. Parce que le Père regarde chacun comme quelqu'un d'individuel. Vous savez, c'est le bon berger qui laisse ses 99 brebis à la bergerie pour aller chercher la seule qui allait se perdre. L'amour du Père n'est pas un amour qui regarde tout le monde de manière uniforme. Il regarde chacun et il va chercher chacun là où il se trouve. Je ne sais pas où tu te trouves ce matin. Vous savez que dans une vie, il y a plusieurs saisons et puis parfois on peut être tantôt comme ce fils aîné dans la maison de Dieu, faire les activités, aller à l'église tous les dimanches. Mais au fond de nous, il y a une amertume, il y a quelque chose, parce qu'on n'est pas, on n'a pas complètement réalisé l'amour de Dieu pour nous. Ou peut-être que tu es comme ce fils prodigue, tiraillé entre servir Dieu ou servir les idoles, tiraillé entre l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. Il y a cet appel de Dieu. Viens à moi, viens dans mes bras et je vais régler tous ces tiraillements. Ou peut-être que tu es le fils prodigue réconcilié, et c'est très bien. Mais il y a certainement une dimension dans laquelle tu dois rentrer un peu plus loin dans l'amour du Père. Alors ce matin, on va reprendre ce chant, et puis peut-être, si vous l'acceptez, peut-être des anciens pourraient venir prier pour ceux qui vont se présenter, qui ont besoin, peut-être juste d'une épaule, peut-être juste d'une main posée sur l'épaule, ou peut-être d'un bras qui entoure, ou peut-être d'une parole d'encouragement, peut-être d'une prière, je ne sais pas, mais laissons-nous conduire. Viens, approche-toi ce matin devant ton Dieu, devant ton papa. Approche-toi, n'hésite pas, il y a cet appel ce matin qui vient du cœur du Père, qui veut te toucher comme il ne t'a jamais touché, qui veut te révéler des choses. Approche-toi, n'aie pas peur ce matin. Approche-toi. Pas devant des hommes, approche-toi devant ton Dieu qui t'attend et qui t'appelle ce matin. Alors lève-toi et viens ce matin. Viens ce matin recevoir ce que Dieu veut te donner. Approche-toi. Approche-toi de Dieu. Amen. Approchez-vous.
Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Encore une fois, qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, je trouvais ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.